Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
On parle de sexualité, mais ce qui est assez fascinant, et c'est aussi ça moi que je trouve tellement enrichissant, c'est qu'on parle d'éducation, de religion, de tradition, même parfois de politique, des choix, des non-choix, des traumas, des rencontres. Et c'est ça qui est très enrichissant, c'est qu'on parle vraiment de tellement de sujets autour de la sexualité que, évidemment, on parle de pratique et d'orientation, mais pas que. Et pour ça, je pense que c'est vraiment un super moment d'échange.
Exécuté par qui ? Fabrice Florent.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Mec. Chaque deuxième et quatrième mercredi de chaque mois à partir de 6h du matin, on parle avec des mecs de leur rapport à la masculinité et de répondre à la question « C'est quoi pour toi être un homme ?» Je suis Fabrice Florent et dans la vie, je fais des podcasts d'interview et de discussion et je crée du contenu. Si vous aimez ce podcast, allez écouter la bande-annonce pour en découvrir un peu plus sur moi et mes autres podcasts. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préférée, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon boulot.
Nous sommes donc avec Anne-Laure Parmentier, bonjour!
Bonjour Fabrice Florent.
Anne-Laure, spoiler, nota bene, post-scriptum, disclaimer.
Waouh!
Nous nous connaissons, toi et moi, depuis un petit bail.
Et ouais, depuis, j'irais 4 ans.
Et voilà, c'est
oh,
fou.
Waouh, time flies.
À l'époque, j'étais chez Mademoiselle et toi, tu étais encore, tu étais toujours. La tête de ton entreprise.
Tout à fait.
Tu es entrepreneuse, n'est-ce pas? D'ailleurs, il est écrit sur ta bio d'autrice, là, entrepreneuse depuis plus de 15 ans. Anne-Laure Parmentier dirige aujourd'hui une agence de communication entre Paris et la Drôme.
C'est chic ou pas?
C'est la classe, putain.
C'est même pas moi qui l'ai écrit.
Bah, c'est toujours le concept. Ça, c'est ton éditrice ou ton éditeur?
Tout à fait. C'est Claire et Gabriel de Robert Laffont qui
Bonjour Claire et Gabriel. Anne-Laure, tu es plus connue sur les internets, non pas comme Anne-Laure Parmentier, mais comme On the Verge.
c'est mon avatar, yes.
Et je tiens à dire que quand c'est On the Verge, on ne parle pas de la fameuse série de Canal+.
Oui, exactement.
De Julie Delpy.
D'ailleurs, je ne sais pas si tu as eu cette information qui m'a fait un peu rire doucement, c'est qu'il n'y aura pas de deuxième saison.
Allez.
Parce qu'on a eu un petit sujet avec le nom. Que moi j'avais déposé et Canal a sorti cette série début d'année je crois, enfin rentrée dernière, septembre,
ouais,
octobre, et donc il y a eu un petit sujet de nom et bon moi j'étais safe tu vois, mais donc il y a eu un accord à l'amiable qui a été fait et en fait j'apprends que finalement il n'y a pas de deuxième saison,
tout ça pour ça. J'ai envie de te dire.
Mon avance est passée chez l'avocat.
Surtout qu'en plus, eux, ils l'ont... Ah oui, ton avance de sous est passée chez l'avocat. Ton avance de sous pour ta boîte.
Oui, pour
ton livre, pardon, est passée chez l'avocat.
Bye bye. Au moins, je peux faire plein de trucs avec ça maintenant, en produits dérivés. Je vais faire un slip on the verge.
Ce qui est terrible, c'est qu'eux, ils l'ont utilisé comme on the verge.
Yes.
Alors que toi, tu l'utilises vraiment on the verge comme sur la bite.
J'aurais pu l'appeler sur la tub, ouais. Tu sais que d'ailleurs, attends, il a failli s'appeler ce podcast.
Non. Tu veux vraiment le dire, ça?
Si, parce que c'est Mimi et toi qui m'avais dit à l'époque, meuf, c'est pas une bonne idée. Je voulais l'appeler Fallu s'y penser. Moi, je trouve qu'à l'écrit, ça rendait si bien. Et Mimi m'a dit, non, pas les jeux de mots, en fait.
Pas les jeux de mots. Mais... J'ai retrouvé il n'y a pas très longtemps, je ne sais plus comment, complètement par hasard... Sur Messenger, notre conversation qui parlait de ça, ça m'a fait rire.
Ah ouais, j'avais quoi? J'avais Phalégorie aussi. Enfin, j'étais partie sur des trucs un peu littéraires. Hein. Et en fait, non, pas du tout, quoi.
Parce que, oui, pour expliquer un peu aux gens, mais tu m'as un peu envoyé des infos, ouais. Et tout. Bon, je dois te dire, Mimi aime pas Fallu ses pensées. Elle déteste les jeux de mots. Elle me dit, dis-lui des os. Elle propose le sexe des hommes. que je trouve marrant par rapport au cœur des hommes, ouais, la fameuse série de films. Donc voilà, c'est marrant.
Et finalement, c'est je rends à César ce qui appartient à César. C'est le mari de mon associé qui a eu cette idée. Okay. Et en discutant, il est publicitaire, donc il a le sens de la punchline. Et merci Nico, parce que franchement, c'était une super bonne idée. Et donc, On The Verge, ouais, podcast indépendant qui parle de sexualité masculine.
Voilà, que tu fais depuis 2019, maintenant, c'est
ça ? Ouais, ouais.
Où tu invites des gars à venir parler de sexualité. Alors, c'est très large. Disons qu'il y en a pour tous les goûts.
Pour tous les goûts, exactement.
Si je puis me permettre.
Il a fait une petite tête en disant ça, pour tous les... Exactement, toutes les orientations.
Ça parle de... Oui, et puis t'as même là ajouté dans le livre, donc, ouais. Parce que tu l'adaptes en bouquin. C'est pour ça qu'on se reçoit. tu l'as adapté en bouquin chez Robert Laffont, justement. T'as ajouté des trucs, enfin des témoignages
des
en plus.
Des informations, oui.
C'est d'ailleurs marrant parce que t'as pas fait un transcript.
Non.
Comme on aurait pu l'attendre. Tu as vraiment raconté à la troisième personne et tu prends toi-même la parole en tant que podcasteuse, intervieweuse, autrice, je ne sais guère. Rayer la mention inutile pour venir raconter un peu à la troisième personne et venir mettre des guillemets.
Tout à fait.
Mais tu interviews notamment un mec qui est malentendant.
Ouais, LSF, ouais, en langue des signes.
T'as fait l'interview en langue des signes.
Bah, en fait, c'est ça qui était hyper intéressant.
Ce qui n'est pas du tout podcastable.
T'as compris ou pas ? Il est bon. C'est pour ça que c'est le meilleur. Non, mais c'était ça l'idée sur ce livre. C'était que faire du testimonial, en fait, je trouvais pas l'exercice très intéressant. J'ai eu pas mal, attention, c'est relatif, mais j'ai eu quelques propositions de livres.
Bonsoir. Vous êtes un podcast écouté, reconnu, sur la place.
On est venu un peu me chercher sur ces infos.
Te dragouiller.
Et en fait, les propositions de projet étaient, somme toute intéressantes, mais étaient, pour certaines, effectivement, très testimoniales. C'était ça, c'est la retranscription, tu vois, à refaire. Et donc ça, j'avais pas très envie de faire cet exercice. Ensuite, il y avait des propositions très de guides pratiques. Et c'est là où j'étais un peu mal à l'aise parce que la légitimité, il y avait une vraie question en tant que femme. Et puis surtout, c'est tout l'inverse du projet du podcast qui est d'expliquer que la sexualité, c'est du mouvement, c'est propre à chacun. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de to-do list à checker et que justement chacun doit être extrêmement libre dans l'expression de sa sexualité. Donc faire un bouquin en disant petit A, comment se masturber, petit B, comment faire jouir votre partenaire. En fait, c'était pas possible.
Les pré-lili.
Oh mon Dieu, l'angoisse. et voilà. Et en fait, c'était un peu... ça me ressemblait pas. Et en fait, avec Robert Laffont...
Salut Robert, si tu nous écoutes.
Il y a une jolie rencontre avec Françoise Delivet, que je connais depuis longtemps, que j'ai croisée dans ma vie professionnelle, à qui j'ai demandé conseil et qui m'a dit « En fait, on va le faire ensemble, ce livre. » Et j'étais un peu... Boobie, parce que Robert Laffont, c'est une grande maison d'édition et que je ne savais pas qu'il voulait développer des livres comme ça. Et puis, la vie a fait que c'est Gabriel Zaffrani et Claire Poulain qui ont pris le projet en tant qu'éditeur. Et c'était top parce qu'ils m'ont beaucoup aidé. Ils ont été vraiment les premiers supporters et Gabriel me disait toujours « Ouais, vas-y, c'est bien comme ça et tout. On rajoute de l'émotion, rajoute de la rencontre. » Et en fait, c'est ce qui s'est passé, c'est que j'ai romancé énormément chaque rencontre. Il y a 7 inédits. Donc, c'était intéressant les inédits parce que justement, déjà, j'ai plus davantage les romancer parce que les auditeurs et auditrices sont pas une référence audio.
Ouais.
Donc j'ai pu raconter davantage de choses parce qu'il y a des exercices où en fait la personne m'a écrit, notamment Alain à la fin.
Ouais.
Et donc du coup c'est plus une retranscription, c'est plus une nouvelle en fait qu'il faut lire qu'un témoignage. Et puis effectivement c'est des personnages que je n'aurais pas pu enregistrer, notamment Marwan parce que il ne peut pas s'exprimer dans un micro, mais aussi il y a un mec qui s'appelle Yann qui est un monsieur dans les médias connu et que du coup évidemment il pouvait pas prêter sa voix à cet exercice parce
qu'il
raconte.
Bravo, t'as interviewé Patrick Poivre d'Arvor et pour ça je te dis
même pas,
toutes mes félicitations.
Franchement, même pas. Non parce que.
Alors Patrick, raconte-nous ta vie sexuelle.
Alors PBD.
Cours.
Mais l'idée celle-ci, c'est que c'est ce que je dis dans la préface, c'est que toutes ces histoires sont des sexualités consenties. Ce qui n'a pas toujours été le cas à mon micro, où j'ai eu des histoires beaucoup plus difficiles à entendre. Et donc, l'idée était quand même de faire un livre assez good vibes, enfin, tu vois ce que je veux dire. Et donc, du coup, je n'ai pas, je ne propose pas aux lecteurs et aux lectrices des histoires trop compliquées, enfin, des histoires de vie trop compliquées. Ouais.
On va en parler hein, de ces moments peut-être plus compliqués pour toi à vivre en tant qu'intervieweuse.
Tout à fait.
Et en tant que machin. Bref, l'autre truc qui est intéressant, c'est que tu permets aussi à des mecs qui voulaient pas parler dans le micro parce qu'ils avaient peur d'être reconnus. Alors en dehors de l'aspect personnalité.
Mm-hmm. Oui, juste pour l'entourage.
Juste pour l'entourage, quoi. Et de ce fait-là, ça ouvre une porte de plus.
Ouais, carrément.
Et en plus, c'est vrai que c'est effectivement ces témoignages-là sont hyper intéressants parce qu'ils apportent quelque chose en plus.
Mm-hmm.
J'ai pas compris en fait, notamment, est-ce qu'il y a un moment donné où t'as été retrouvé des gars que t'avais déjà interviewés, c'est
ça? En fait. Honnêtement, je perds rarement le contact avec mes invités.
Okay.
On est quand même à 70 épisodes. J'ai vraiment un tableur Excel avec les prénoms d'usage parce qu'il y en a pas mal qui changent de nom.
Ouais.
Donc du coup, j'ai les noms, tu vois, du podcast, j'ai les vrais prénoms et noms. Il y en a qui changent pas. Merci ceux-là. Et avec les contacts, etc. Et je reste quasiment en contact avec tout le monde.
Est-ce que c'est, par exemple, ton passé d'attaché de presse qui t'a mis en mode je vais exiliser?
C'est possible.
Mais
c'est possible. Ouais, c'est vrai que tu vois, pour la sortie de livre, j'aurais fait un petit mailing personnel. Ouais, c'est peut-être ça.
Je suis nul en ça, tu sais.
Ah bah je t'apprendrai, franchement, c'est trop simple.
Non, mais en fait, c'est pas, je crois vraiment que c'est une gymnastique de l'esprit que je n'ai pas.
Après, t'as vu, je suis très forte en prénom. T'as vu, je te ressors des blases que tu me de Jean tout à l'heure là dans ouais. Florence, j'ai un truc avec les prénoms, j'ai une mémoire fab. Des fois, je me pollue, hein, mais j'ai une mémoire incroyable. Des prénoms, des visages, des
mais ça,
situations,
mais ça,
des
ça
odeurs.
Va aussi avec ton... T'as été attaché de presse,
ouais.
C'est pareil, quoi.
Ouais,
il faut savoir
si
reconnaître les gens, c'est un métier de réseau.
Je sais pas si c'est cette qualité qui a permis que je sois attaché de presse et que j'étais pas trop mauvaise, ou si c'est en étant attaché de presse que je développais ça, mais j'ai vraiment une sacrée mémoire, ouais.
L'œuf ou la poule?
I don't know. Mais ouais, donc du coup, je suis restée en contact avec beaucoup, beaucoup. Donc quand je leur ai demandé leur autorisation pour coucher sur le papier leur histoire, bah du coup, il y a eu un petit échange qui a été fait et je leur ai demandé un petit update de leur vie. Et donc chacun a participé et donc j'ai pu raconter un peu plus, donner des nouvelles et puis voilà.
Ok, trop cool.
Ouais.
Qu'est-ce qui t'a donné envie, Anne-Laure? Ça, je sais que c'est la question qu'on a dû te poser 142 fois dans cette promotion et je suis désolé de te la reposer à nouveau. Mais en fait, bon, tu sais très bien que c'est intéressant en tant que meuf de se pencher sur le berceau de la sexualité des mecs. En fait, j'aimerais bien savoir quelle a été ta motivation et ton moteur, en fait. Parce que pourquoi ne pas juste avoir laissé les mecs s'occuper des mecs?
C'est une vraie bonne question. J'ai répondu, comme tu dis, à cette question 142 fois, où j'expliquais effectivement l'envie de construire moi aussi une petite pierre à l'édifice du féminisme et de la parité, etc.
Oui, mais ça, tu vas pas me bullshit, moi. Ça,
ah non, c'est vrai.
J'entends ton... Mais j'entends ton discours déjà tout fait que t'as répété 142 fois.
Sorry.
Il va falloir m'en donner
non,
plus.
Non, mais justement, il y a un truc intéressant, t'as dit en tant que meuf. Et en fait, tu sais quoi? Ma première approche, elle est vraiment très humaniste. C'est pas en tant que meuf que je les interview, c'est vraiment d'humain à humain. Il y a vraiment un truc quand je rentre dans une interview, c'est que je lève le truc de mec, meuf, etc. Et surtout, c'est un échange qui moi, me nourrit incroyablement. Et il y a un truc, tu vois, j'y réfléchis la dernière fois, je pense qu'il y a aussi un truc d'envie d'être un peu utile. Tu sais, il y a le fameux truc, à un moment donné, on arrive à un âge, on a envie d'être un peu utile.
Apporter du sens à sa vie.
Mais exactement.
Okay.
Et vraiment, même si mon job est hyper intéressant et que je crée de l'emploi et de la valeur ajoutée à la France et que...
Tu contribues au PIB.
Je contribue au PIB, etc. J'en suis très fière et c'est très
cool.
Paye
de la TVA.
Yahoo. Et mais toutefois, le fait de, tu vois, d'avoir cet espace-là et surtout d'avoir vu l'impact que ça avait chez les auditeurs et les auditrices, tout de suite, d'avoir ces mails que tu as sûrement, toi, sur tes thématiques que tu abordes, de remerciements, de gens qui te disent « ça me fait tellement de bien » ou « j'ai une femme, une fois, qui m'a expliqué à quel point ça avait permis dans sa vie ou un moment où avec son mec, il s'est séparé après 20 ans, etc. » Enfin, un mail hyper touchant. Et en fait, j'ai des auditeurs comme ça et auditrices qui m'envoient, alors parfois, c'est une fois, parfois c'est des gens qui, tu vois, au fil des années, continuent à me donner des nouvelles. Et en fait, le fait de donner du sens à tout ça et d'avoir vraiment cette être ce passe-plat, bah en fait, c'est très motivant.
Ok, j'entends bien d'humain à humain, mais t'aurais pu faire un podcast mixte.
Ouais, mais en fait, je me sentais pas. C'est très bizarre, mais je me sentais pas d'interviewer des femmes parce que je trouve que c'est très bien fait ailleurs. Et je voyais qu'il y avait pas grand-chose chez les gars. T'avais toi à l'époque avec Mimi The Boys Club. Mmh. Vous parliez plus de masculinité.
On parlait un peu de cul, mais effectivement, cul c'était aussi. Pas le sujet. Ouais.
Mais c'était moins, ouais, exactement moins le sujet. Et je trouvais que il y avait pas grand-chose chez les gars. J'ai regardé un peu, tu vois. Des formations professionnelles sur des médias, etc. Et il y avait que dalle. Et puis, il y a ce truc, ça, c'est plus ma nature, c'est que j'ai beaucoup de potes. Je suis vraiment...
T'es une fille à garçon.
Ouais, vraiment, j'ai toujours été très à l'aise avec les garçons. Dans ma vie pro, perso, intime, j'ai jamais eu de problème avec les gars. J'ai jamais... Et vraiment, parfois, je me dis peut-être que j'ai raté un truc, tu vois. J'écoutais il y a pas longtemps, je sais pas si tu l'as écouté, le podcast d'Ovidie qui parle de... histoire de... Comment ça s'appelle ? Elle s'est fait larguer par un mec. Elle fait toute un truc en 5 épisodes. C'est un hors-série sur le cœur sur la table. C'est hyper intéressant parce qu'elle essaie de comprendre pourquoi il y a un gars qui l'a lâché à 3 du mat et lui a laissé son calbut, tu vois, sale, etc. Et à un moment donné, elle interviewe sa pote Maya Mazorette, que tu connais très bien, qui lui dit « Tu sais, en même temps, moi, je crois que j'ai raté un truc parce que je n'ai jamais été quittée. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça fait. » Et je trouve que c'est intéressant de donner par le contre-exemple quelque chose qu'elle ne peut pas expliquer. Et moi, j'ai un peu ce truc où j'ai une chance incroyable. Je n'ai jamais eu d'histoire compliquée avec les hommes. J'ai toujours eu des amants, des petits amis, des sex friends. Hyper cool, quoi. Ça a toujours été fluide, ça a été sympa. Et donc, j'avais aussi envie de comprendre un peu de l'autre côté comment ça se passait.
Ok. Donc tu veux dire que mais tu sais ce que tu dégages toi pour faire en sorte que les mecs que t'amènes à toi sont des mecs respectueux ?
La peur bien sûr. Pas du tout.
plutôt l'inverse, n'est-ce pas ?
Non mais tu sais j'en parle justement avec des invités avec qui du coup on a sympathisé. Je pense qu'il y a un truc déjà il y a le format du podcast, comme tu le sais, c'est très intimiste et bon, il y a quelque chose avec le micro, etc. T'es dans un espèce de ce qu'on appelle un cadre thérapeutique ou vraiment
est-ce que t'es en train de parler du podcast parce que moi je te parlais dans ta vie.
Ah, dans ma vie ?
Oui.
Ah, c'est je sais pas. Écoute Fab, je ne sais pas. Une fois j'ai une nana qui est très branchée énergie qui m'a dit qu'il y a beaucoup de parts masculines chez moi, donc peut-être que les gars sont rassurés, j'en sais rien. Pourtant j'ai pas l'impression de dégager beaucoup de masculinité, tu vois, mais je sais pas, franchement je ne sais pas, je me suis jamais posé
pas mal
question. Tu trouves?
Ouais.
Ah ouais,
t'es une meuf d'action.
Ah, t'es
tu dis les choses.
Ah oui, c'est
tu,
vrai.
Tu vois, il y a un côté courageux chez toi, il y a un côté enfin bref, c'est
mauvais juge de soi.
Entendons-nous bien, c'est la part masculine entre guillemets,
bien
quoi.
Sûr,
voilà.
Bien sûr, mais j'arrive pas trop à genrer. Je sais pas ce qui s'est passé dans ma vie pour rencontrer que des gars plutôt cool. Je ne sais pas. Peut-être que j'ai un détecteur à con. Je sais pas. J'en sais rien.
Il faudrait que tu le breves. Tu le brevettes.
Peut-être.
Tu le breveteux. Tu le.
Ouais.
Tu poses un brevet. Tu déposes un brevet.
Je vais déposer un brevet.
Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage, Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Ok, donc ouais, t'as vraiment voulu à un moment donné te dire « Ok, bah, il existe peu de trucs sur... »
Ouais, carrément.
Mais c'est vrai.
Mais c'est toi qui me l'as dit le premier quand je t'avais parlé de l'idée. C'est Océane qui nous avait mis en contact.
Océane.
Et Océane Viala, qu'on adore.
On adore.
Et c'est vrai que tu m'avais dit, mais meuf, go quoi, il y a pas grand chose qui existe, super bonne idée, etc. Donc ouais, j'avais lancé le truc avec Émile qui est un pote, Et que j'ai remis dans le livre parce que Émile, vraiment, il a vraiment conquis beaucoup de cœur avec sa grosse voix suave. Et c'est vrai que ça, c'est parti et très vite. Alors, comme quoi, tu vois, on est souvent le moins bon juge avec soi, mais j'ai pas du tout pensé faire, tu vois, d'audience. J'avais pas du tout prévu de communiquer dessus, etc. Et le truc est parti, quoi.
Alors, qui est écrit sur le bouquin? Ouais. D'après le podcast, au million d'écoutes. Ouais. Ça veut dire que t'as un million
bien
d'écoutes.
Bien passé, ouais, même. Ouais.
Wesh.
Wesh.
L'autre truc dont je voulais te parler, c'est de ton audience.
Ouais.
Est-ce que t'as beaucoup de mecs qui t'écoutent?
Ouais.
Vraiment?
Ouais.
For real?
For real.
T'as des stats?
Des stats, non.
Tu sais, tu peux voir sur Spotify, petit
ouais,
truc de podcasteur.
Tu m'as dit, je l'ai pas fait. Et je t'avais dit que je le ferais et je l'ai pas fait.
Tu peux aller voir.
Mais tu vois, par exemple, dans les mails que je reçois, ça, j'ai un peu pareil. La meuf a fait un tableur. je rentre quand même. Bah ouais, quand même. Parce que c'est important aussi de... Je trouve que c'est important de savoir avec qui... Enfin, tu vois, avec qui on échange.
T'as fait un tableur?
Ouais.
Des gens qui t'écrivent?
Ouais. Quand c'est pas juste... c'est cool, machin. Tu vois, quand il y a un vrai échange. Ouais, c'est important.
Pourquoi?
Ben, je sais pas, en fait, c'est pour garder une trace, pour savoir de quoi on parle, pour les garder. Je sais pas, ça est.
Ok. J'adorerais voir ce tableau.
J'ai beaucoup de drive et beaucoup de tableurs. Ouais.
Mais tu fais quoi? Tu copie-colle les mails dans le...
Non, je fais les thématiques, en fait. Tu vois?
Ok.
Je fais des thématiques, etc. C'est... Je sais pas, je trouve que, tu vois, par exemple, sur des épisodes où il y a eu des petits. Voilà, peut-être des mots qui ont été le curseur n'a pas été bien mis, ou il y a eu des petits sujets, parce que tu apprends tous les jours. Enfin, toi, le premier, tu sais à quel point c'est hyper touchy, la sexualité, le consentement, etc. Du coup, quand j'ai des mails comme ça, tu vois, j'arrive à quantifier combien de retours je peux avoir. Alors après, je reçois pas non plus 50 mails par jour, hein, donc tu vois, c'est facile à gérer, mais je trouve ça assez intéressant, ouais.
Pourquoi tu fais ça? Pour essayer de t'améliorer, toi, en tant qu'intervieweuse,
bah,
c'est ça?
J'ai énormément de sujets. Tu vois, par exemple, dans la première saison, j'avais un garçon qui expliquait, donc il avait subi, c'est le mot, une circoncision quand il était tout petit, pour des raisons traditionnelles.
Religieuse, en fait, tu veux dire?
Pas vraiment. Pour
non, en plus.
Non, non, c'était vraiment une ethnie au Ghana, et c'était pas forcément religieux, mais c'était trad. Et en fait, ça s'est mal passé. Donc, à 3 jours, la boucherie. Et il a été opéré sur son petit sexe de bébé. Et en fait, aujourd'hui, à 35 ans, le gars n'a quasiment plus de sensibilité. Donc, c'est très difficile parce que du coup, il a une sexualité qui n'est pas franchement épanouissante. Et
La prostate. Oh, ouais.
Aussi, mais alors là, tu vois, pareil, d'un point de vue traditionnel, ça va être un chouille plus compliqué de déconstruire ça.
Ouais.
Mais il a pas du tout de quasiment plus de sensibilité. Et puis plus le temps avance, moins il en a. Et donc, il lui est arrivé par moment d'enlever son préservatif sans prévenir sa compagne, enfin sa partenaire de l'époque.
Mmh.
Et en France, pour le moment, ce n'est pas encore un crime. Mais par exemple, c'est passif. En Suisse, c'est du viol. En France, c'est un délit.
Ok, oui.
Mais c'est pas encore un crime.
Ok.
Donc, tu vois, cette nuance-là, moi, je la connaissais pas. Donc, j'ai des auditeurs et des auditrices qui me l'ont dit. Donc, du coup, je me suis renseignée sur les textes de loi, etc. Donc, tu vois, ça m'aide aussi à pousser un peu des sujets.
Mais donc, tu veux dire qu'à ce moment-là, quand le gars vient te dire ça la prochaine fois, tu viens lui dire, c'est ça?
L'idée, c'est de jamais être moralisatrice. C'est d'être plutôt safe, enfin, dans un espace safe où les gens doivent être hyper à l'aise de dire ce qu'ils ont envie de dire, tu vois. L'idée, c'est pas d'avoir que des good guys qui font que des bonnes choses et qui sont hyper à l'aise sur le consentement, sinon, tu vois, ça sert pas à grand chose. Mais l'idée, c'est d'être juste dans ce que moi, je vais lui dire. Et puis le rappeler, tu vois, dans la note qui accompagne le podcast, rappeler, mettre les trigger warnings de circonstances, et puis surtout rappeler les textes de loi. C'est hyper important. Mais pour éduquer, parce que tu vois, moi, je trouvais ça vraiment dégueulasse, mais je ne savais pas que la loi s'était positionnée sur ce sujet.
Bah oui.
Et en Suisse, c'est vraiment un viol. Donc.
Ok. Tu vois, je me demandais si ça n'avait pas évolué depuis quelques temps en France, mais peut-être je me suis.
J'ai parlé avec une jury sur le sujet qui me disait que c'était encore en jurisprudence.
Ok.
Mais ça ne serait tardé.
Ok. Ne faites pas ça si vous êtes un garçon.
Non, jamais.
Voilà. Ça, à minima, le consentement sur cette base est
tout à fait
très importante. Ok. Est-ce qu'on peut parler des moments plus durs? Parce que tu t'es retrouvé dans des moments... Enfin, j'ai écouté quelques épisodes, j'ai fait... Ok, en tant qu'intervieweuse, ça doit être chiant.
Bah, je t'avais parlé d'un épisode, notamment avec Erwan. Tu sais, tu m'avais dit une réponse, parce que ça m'avait vraiment bouleversée. Donc, pour contextualiser, Erwan, donc c'est un épisode qui est, pour le moment, qui est le seul en deux fois, qui est en deux parties, qui est un garçon qui vient me raconter l'ultime tabou sur Terre. Donc, il a vécu l'inceste par sa mère de 8 à 13 ans, quoi, un truc comme ça. Donc, dans un contexte familial complètement fucked up, etc. Et un gars qui a une résilience absolue et qui va, durant grande majorité de sa vie active sexuelle, enfin en tout cas les débuts, les 10-15 premières années, va aller au plus trash du trash pour justement se poser les limites, parce que finalement, c'est un peu ça le rôle des parents, c'est poser des limites. Et enregistrer ces épisodes, donc on a fait en 6 heures, je crois. Et donc j'ai sorti 2 épisodes d'une heure et demie. Donc l'enregistrement a été très dur. D'ailleurs, je crois que j'ai déjà dit une ou deux fois, mais je suis allée vomir à un moment donné, parce que moi-même, je suis maman d'un petit garçon, et ça a été très, très, très dur. Voilà. Pourtant, Erwan dit pas des, enfin, après chacun a sa limite et donc je peux pas jauger si c'est ce qu'il dit est inaudible ou pas, mais en tout cas, c'est très difficile à entendre. Et le montage, du coup, a été extrêmement éprouvant. Et je t'en avais parlé, je t'avais dit, je sais pas si je le sors parce que, tu t'en rappelles?
Mm-hmm.
Je sais pas si je le sors parce que je le trouve super dur et tu m'avais dit, pose-toi 2 questions. Est-ce que ça répond à ton édito? 2, le journaliste, tu sais. 2, est-ce que ça va aider quelqu'un? La réponse était oui et aux 2 questions. Donc je l'ai sorti et ça a été une vague de messages de soutien, d'encouragement, d'amour pour Erwan. Mais vraiment, hein, j'en recevais je sais pas combien. Donc je lui ai forwardé ce qui était le plus, on va dire, de intéressant. Enfin, en tout cas, parce que j'ai eu beaucoup de « c'était super », donc ça, j'en ai fait grâce. Mais il en a reçu énormément, encore aujourd'hui, 2-3 ans après. Et lui, ça l'a énormément aidé, évidemment. Alors évidemment, c'est quelqu'un qui est en thérapie. C'est marrant, j'ai dîné avec lui la semaine dernière, c'était trop cool, il était de passage sur Paris. Et il est en thérapie, enfin voilà, il fait beaucoup de travail, un cheminement personnel. Mais moi, cet épisode, il m'a beaucoup, beaucoup hanté.
Dans quel sens?
Parce que je me rendais pas compte, parce que donc du coup, il y a eu cette histoire avec Erwan et ce montage, et donc après, il y a eu tous ces messages où en fait, j'avais énormément de gens qui me disaient, et c'était surtout ça que je vais partager, moi aussi j'ai vécu ça, ou moi ma sœur, ou moi mon frère, ou moi ma cousine, par la nourrice, par la tante, par le machin. Et en fait, cette vague-là, tu vois, de se rendre compte à quel point l'inceste en France est aussi présent et tabou. En plus, quelques mois après, sortait le très bon podcast de Charlotte Pudlowski sur le sujet sa mère étant victime d'inceste. Donc du coup, j'ai lu pas mal aussi d'infos là-dessus. Et en fait, je me rendais pas compte à quel point ce truc était aussi présent dans notre société.
Mais tu vois, par rapport à ton podcast, enfin, ton podcast par rapport à celui de Charlotte Pudlowski, moi je trouve que c'est cool parce que ça vient montrer l'autre facette aussi où on a effectivement tout le temps le cliché du mec agresseur. Et bien sûr, c'est en grande majorité.
Bien sûr.
Mais en fait, ça...
Du vieux pervers qui va, bien sûr, prendre la petite fille, bien sûr. Et en fait, pas du tout. Plein de femmes, en fait. Tu vois, notamment sur quand j'ai eu les messages là pour après la publication de l'épisode d'Erwan, j'ai eu plein de gens qui m'ont dit « Mais merci, en fait. Moi, pendant des années, j'ai dit que ma nounou me faisait ça. On ne me croyait pas. » Et des petites filles comme des petits garçons.
Mmh.
Et effectivement, des femmes incestueuses... c'est le tabou. C'est pour ça que je dis c'est vraiment le tabou ultime parce que, et c'est dramatique, mais effectivement, comme tu dis, il y a beaucoup ce cliché, tu vois, soit du daron, soit tu vois, d'une figure masculine qui est dominante qui va abuser d'une petite fille ou d'un petit garçon. Mais c'est vrai que la mère, c'est oh waouh, tu vois. Et en fait, j'ai eu tellement de messages comme ça. Et ça, ça a été difficile, ouais.
T'avais du mal à. Tu disais que t'es allée vomir et tout, t'étais pas à ta place. En tant qu'intervieweuse, là, t'étais plutôt... C'était la mère qui écoutait.
Ouais. J'essaie vraiment très souvent de mettre une distance thérapeutique. Hein. J'en ai parlé avec une sexothérapeute qui me disait clairement, c'est ce que tu fais. Hein. Tu mets une distance thérapeutique. J'aurais pas du tout pu gérer ce podcast à 25 ans, par exemple. Ça aurait été beaucoup trop intense. Là, aujourd'hui, tu vois...
Tu dis, t'étais peut-être pas maman, tu vois. Donc t'avais
j'étais pas maman,
t'avais
déjà.
T'avais moins puis, ce truc, peut-être...
Oui, et puis, tu vois, t'as moins de distance, t'as vécu moins de trucs, etc. Enfin, en tout cas, dans mon parcours professionnel, pas du tout. Personnel. Après, il y a des gens de 25 ans qui ont tout à fait les épaules, mais moi, je sais que je les avais pas. Et là, bah, 13 ans plus tard, un peu plus. Et c'est vrai que ouais, c'est, en fait, c'est ça, c'est la mère qui a pas supporté d'entendre ça. Donc, mais après, je suis très contente de l'avoir fait. Je suis très contente de l'avoir proposé aux auditeurs. Et j'ai fait l'été d'après un Que sont-ils devenus ? Et évidemment, Erwan faisait partie des gens dont les gens avaient envie d'avoir des nouvelles. Donc c'était cool. Mais c'est vrai que ouais, ça a été un vrai truc. Et dans les choses difficiles, bah, c'est très récemment, j'ai enregistré un jeune garçon qui s'appelle Hugo. Et en fait, tu vois, avec le confinement, j'ai appris à enregistrer à distance, ce qui me facilite parfois, toi-même, tu sais, les plannings des gens, etc. Ouais. Et donc, ce qui m'a permis aussi vraiment d'enregistrer avec des gens qui sont pas que dans l'entre-soi parisien. Et ouais, ça, c'était vraiment un choix très important pour moi. Et donc, il y a ce jeune garçon qui me propose son interview et j'étais en déplacement, je rentre, je suis cramée de fatigue, mais bon, faut que je l'enregistre, tu vois. Donc, je me pose, je commence à enregistrer. Et puis, tu sais, il a une voix très douce, il a 19 ans à peine. Il me raconte ses amourettes, ses fleurs. Donc, c'est un garçon qui est homosexuel. Et c'est hyper mignon. Et ça me berce un peu. Et je suis un peu fatiguée. Donc, je me laisse porter. Et là, en fait, son discours change. Et tu vois, j'entends le mot. Et c'est là que j'ai commencé à me prostituer. Donc, du coup, je suis un peu moins je suis plus ancrée dans cette interview à ce moment-là. Et je dis, mais c'est-à-dire... Et là, en fait, il m'explique que... Parce qu'il avait eu un petit chagrin d'amour. Il s'est dit que tous les mecs étaient des connards et que du coup, bah, il allait faire payer, tu vois. Et en fait, il s'est mis à se prostituer sur des sites. Et je te parle de ça. Donc, on a enregistré il y a 3-4 mois. Et donc, ça faisait à peine un an. Donc, il avait à peine 18 ans quand il a commencé à se prostituer. Et ce garçon, aujourd'hui, a des clients avec lesquels il fait des pratiques extrêmement extrêmes. Et il a un rapport hyper naïf à la prostitution. Tu vois, il raconte à un moment donné un épisode de scatologie, mais genre hyper hardcore, qui reste quand même dans la pratique BDSM assez rare, de niche. Et là, il te raconte ça, et avec énormément de bienveillance pour son client. Enfin, ses adhérents, comme il les appelle. C'est incroyable. Et en fait, ce qui a été très frappant, et qui a été... pour moi, qui m'a posé beaucoup de questions, et du coup, on a beaucoup échangé, lui et moi, après par mail, c'est la dureté de ce qu'il vit. Et tu vois, et ça, il se met en danger. Enfin, tu vois, c'est des conditions de prostitution qui sont... c'est pas le trottoir, mais presque, tu vois. Il rencontre des gars dans des parkings. Il fait noir dans des voitures. Enfin, c'est pas, tu vois, la prostitution de luxe, etc. Il fait des pratiques. Enfin, il propose des pratiques, des prestations... qui demande un degré de maturité émotionnelle et physique assez intense. Et il te raconte ça avec une naïveté, une candeur. Et ça m'a vachement perturbée. Et j'ai pas mal d'auditeurs avec qui je converse souvent, des hommes, à 99%, homo, beaucoup, qui m'ont dit...
J'allais te demander, ouais, est-ce que t'as beaucoup de... d'auditeurs hétéros.
Ah oui, j'en ai beaucoup aussi, avec qui je converse pas mal.
Okay.
Et pas mal, sur cet épisode, m'ont dit... à la fois waouh pour cette liberté de ton, et en même temps, on a tellement envie de protéger le jeune homme. Et ça m'a, tu vois, ça, pareil, ça m'a remis un peu quelle légitimité j'ai et quel rapport j'ai avec lui, moi. Est-ce que, enfin, pas moi en tant qu'individu, mais un peu quand même, avec 20 ans de plus, est-ce que je dois, lui en parler, ou en tout cas, parce qu'il me l'a dit à un moment, il dit, j'ai l'impression de t'avoir... un peu choquée, et je dis non, tu ne m'as pas choquée, mais c'est la façon dont tu abordes ça qui m'a posé question, parce que tu as à peine 19 ans. Enfin, toi, tu as une fille qui a 15-16 ans, enfin, tu vois, il y a très peu de différence.
Oui,
elle a des
sûr.
Potes de son âge, quoi. Mmh. Et ça m'a... Et tu vois, je me suis dit,
quel est ton rôle ?
Ouais, en fait, qu'est-ce que j'apporte à ce garçon ? Donc, on a discuté par mail, c'était cool, tu vois, je ne sais pas du tout si ce que je dis va prendre sens, mais... je me sentais pas, tu vois, de lui dire bon, bah, ciao, bisous.
C'est intéressant, le...
Ouais, parce que ça s'arrête pas à quand t'arrêtes l'enregistrement. C'est pour ça que je te dis, j'ai quasiment 70 mecs, et franchement, je garde lien avec 80%, quoi. Ça peut être juste, tu vois, un petit message, ça peut être un truc sur... tu vois, sur Insta, quand je fais une story, ça peut être un petit mail. Ah bon, pour le bouquin, il y en a pas mal qui m'ont envoyé leurs félicitations. Mais c'est difficile. Ils ont livré quelque chose de tellement personnel et intime. Certains, bah, je le dis, je crois que je l'ai dit une fois, mais j'ai un gars qui m'a... François, qui est dans le bouquin, il m'a livré son histoire et personne d'autre ne la, enfin, dans son entourage ne la connaît. Il a eu un amour platonique qui était sa belle-sœur pendant 40 ans. Mmh. Et il est encore amoureux de sa femme avec qui il est depuis 45 ans. Et tu vois, et il l'a accompagné dans sa mort, dans les soins palliatifs. Et c'est très, très fort comme histoire. Et en fait, il avait choisi une date précise. Et en fait, j'ai compris que c'était la date d'anniversaire du décès de cette femme. Et tu vois, à la fin, il m'a montré des photos de ses enfants qui ont mon âge, de ces deux femmes qu'il a aimées. Et il n'avait jamais raconté cette histoire à quiconque. J'ai pleuré quand il est parti. J'ai appelé mon mec, j'ai pleuré. Ouais, c'était tellement c'était beau, c'était émouvant, c'était fort, c'était triste. C'est un film. Franchement, si quelqu'un veut écrire un film, un scénario dingue, c'est ça, quoi.
Mais il y a un côté thérapeutique à parler. Et en fait, je voudrais aussi rassurer les gens qui connaissent pas forcément ton podcast, parce que là, on parle que des histoires.
Il y a des magnifiques histoires. Ouais.
C'est ça, mais il y a aussi des histoires.
Gaulerie,
t'as aussi des mecs lambda, entre guillemets,
sûr,
quoi, tu vois, qui
sûr.
Sont juste hétéros. Il y en a un qui est. T'as l'histoire de Jordi, en fait, qui est.
Ah oui.
Qui est assez ouf, où il finit par se retrouver à faire un plan à trois avec la nounou et sa femme.
C'est marrant parce que tous les gars bloquent sur ce. Sur cet épisode.
Bah pour moi, en fait, pour moi, désolé, mais vraiment, l'histoire, c'est vraiment.
Tout le monde me
c'est
parle
un
de
scénario
cet épisode.
De, c'est un scénario de
oui.
film, quoi.
C'est marrant. Alors, ouais, avec Jordi.
Bonsoir, il y a la nounou.
Trop cool. Et il a un compte Insta qui s'appelle Mister Oz et il parle vraiment de la sexualité décomplexée, etc. Et il est en couple libre. On lui explique vraiment comment il arrive au couple libre avec sa meuf et tout ça. C'est hyper intéressant. Et puis, c'est un gars très, très bon esprit. Et il raconte cet épisode où la nounou et sa femme et lui, bah, ça part en plan à trois. Et c'est vrai que c'est digne d'un scénar de
film porno. Bonsoir la nounou. C'est vraiment le cliché de la nounou.
Tu sais que tous les gars hétéros qui ont lu le bouquin me parlent de cet épisode.
Bah, en fait, je crois qu'il y a déjà ce truc assez fou de pouvoir avoir cette discussion avec ta femme.
Bien sûr.
Ce qui est quand même en vrai...
Bien sûr.
Assez rare, tu vois. Ouais. Je crois même, tu vois, où tous les gens sont là. Non, mais moi, le couple libre, la polyamour, mes couilles.
Ouais. Surtout parce... quand t'as des enfants. Tu vois, eux, ils sont plus dans un cadre où ils ont des enfants ensemble. Enfin, lui, il a un petit garçon d'un premier mariage et ils ont un enfant ensemble. Et tu vois, des couples libres à 25 ans, c'est OK, tu vois. Mais quand la trentaine, bon, ça va, mais un chouille plus jeune, mais tu vois, quand il y a un noyau, un foyer, je trouve que c'est un tour de force et ils le font de façon hyper bon esprit.
Comme tu dis.
C'est ça, mais il est très solaire. Et c'est vrai qu'il y a des épisodes vraiment très cool. Parce que j'ai parfois des gars, tu vois, qui m'envoient des messages en mode « Ouais, j'ai envie de parler, mais j'ai rien à dire. » Tous me disent ça.
Oui.
Tous.
Moi, j'ai les mêmes avec les darons. Hein.
Mais c'est ça. Et il y a toujours un milliard de trucs à dire.
Déjà, les mecs qui t'écrivent pour dire « J'ai envie de parler, mais j'ai rien à dire. »
Ah ouais,
c'est qu'en fait,
ils ont
des trucs à dire. C'est juste, c'est dur.
C'est dur. Et puis après, il y en a évidemment plein qui me disent « J'ai envie de parler. » Et puis pendant 6 mois, 1 an, j'ai pas de nouvelles. Et puis ils reviennent. Et puis c'est normal. Et puis ils prennent leur temps. Et c'est OK, tu vois. Après, beaucoup, alors je vais parler en leur nom, mais beaucoup, quand ils me parlent, sont au début d'un chemin personnel ou d'une envie, tu vois, de changer quelque chose chez eux. Et donc, ça, c'est un peu le premier step d'un travail plus en profondeur. Donc, ça, c'est intéressant. Et je pense qu'effectivement, ça, ils prennent pas trop de risques parce que c'est con, mais c'est gratuit. Il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas d'engagement. Tu vois, il y a un vrai échange.
Puis, t'es une inconnue.
Et complètement. Je suis une totale inconnue. C'est complètement ça. Et le fait de savoir qu'ils vont être écoutés, parce que beaucoup, leur motivation première dans les mails qui ressort, parce que ça, je l'ai lu, pour l'interview, j'y pensais, c'était quoi la motivation? Et en fait, beaucoup me disent, j'ai envie de partager mon histoire parce que moi, je savais pas que quelqu'un vivait ça. Et j'ai envie de transmettre un truc aux gars. J'ai envie de dire qu'ils sont pas tout seuls. Et après, tu coches la case, me masturber 5 fois par jour ou jamais. Ne pas bander quand j'ai envie ou au contraire être, tu vois, éjaculateur précoce, avoir des fantasmes chelous. Alors après, chelou, tu définis comme tu veux, mais enfin, tu vois, ou avoir une seule partenaire et mal le vivre, avoir une seule partenaire et bien le vivre. Enfin, chacun après a envie de dire aux autres mecs, en fait, ça va, tu vois. Et ça, je trouve ça trop bien, cette...
Ouais, c'est cool.
Sororité, je sais pas comment on dit, fraternité. Bien sûr, on dit fraternité. C'est en plus notre devise en
liberté,
France.
Égalité,
fraternité.
Adelphité.
C'est beau, avec un petit accent. Mais ouais, c'est ça, cette fraternité qui en découle. Je trouve ça très, très sympathique.
T'es maman d'un petit mec?
Yes. Meilleure personne.
Qui a 6-7 ans?
6 ans.
Six
il a
ans.
Eu 6 ans, ouais.
Il vient d'avoir 6 ans. Comment tu fais, toi, en tant que maman, et peut-être même avec son daron pour l'élever, parce qu'en fait la sexualité c'est encore c'est bibou là, tu vois, à cet âge-là.
Ouais, carrément.
Mais bon, il y a déjà des trucs de moi je me souviens que les premières érections c'est super tôt. C'est quoi ton appréhension par rapport
Alors,
à ça?
Tu vas être content, je n'ai jamais parlé de ça à personne.
Yes.
Mais toi,
yes.
Mais toi, tu sais, parce que tu connais Bibou. Eh ben, écoute, très rapidement, on est totalement en phase avec son père sur le sujet. On est, on dit les mots et on parle très vrai à notre enfant, sans lui enlever évidemment sa part d'innocence, etc. Mais l'idée, c'est.
Alors là, papa va enculer maman. Pardon. Pardon, Emmanuel,
que
tu cites. Merci Emmanuel, celui qui partage ma vie, tu es mon tout.
C'est pas faux, toi-même tu sais. Non, mais ce qu'on fait avec notre fils, c'est qu'on lui dit les choses. Donc déjà, le rapport au corps, depuis qu'il est, dès qu'il est né, par exemple, quand je le changeais, je lui expliquais ce qu'il faisait, enfin ce que je faisais. Et c'est vrai que ça paraît trop, enfin débile, tu vois, l'enfant, il a 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 6 mois, et tu lui dis, chérie, je suis en train de te changer, est-ce que voilà, maman est en train de te laver le zizi, etc. Donc déjà dès le départ.
Mais je trouve que c'est fou ça, parce qu'il y a 6 ans, on n'en parlait pas
bah,
du tout.
Bah ouais, mais je sais pas, ça a été, et pourtant j'ai pas l'impression d'avoir lu des trucs, mais je sais pas, c'était.
Laurence Pernoux.
Ouais, non mais tu sais. Dolto, non? Je voulais... Peu importe.
Françoise?
Françoise, c'est toi. Non, mais il y a eu vraiment ce rapport immédiat. Et au fur et à mesure, bah, sur son corps à lui, lui expliquer, tu vois, les vrais mots, lui expliquer comment fonctionnait son sexe, qu'est-ce que c'était. Et puis, le consentement. C'est-à-dire que moi, je demande à mon fils si je peux l'embrasser. Je demande à mon fils, quand tu vois, il se lave, je lui demande de se laver. S'il a, bon, là, il a 6 ans, il est assez autonome là-dessus. Mais un peu plus jeune, je lui demandais s'il était OK pour que je le lave, etc. Les toilettes, c'est pareil. Il est tout seul. Il a son moment d'intimité et il nous appelle s'il a besoin ou quoi. Enfin, tu vois, c'est des micro-choses. Mais par exemple, le consentement, et je le sais, il va pas faire un câlin ou faire un bisou à un enfant, garçon ou fille, sans lui demander. Et c'est à des âges où ils sont très fougueux. Mmh. Et je trouve ça cool, tu vois, qu'il ait intégré ça. Et sur la sexualité, il sait comment on fait les bébés. On lui a expliqué, on a parlé de câlin spécial.
Câlin spécial.
Câlin spécial. Mais tout à fait. Et
je t'imagine tellement, on va faire un câlin spécial.
Alors, on n'annonce pas. Mais en tout cas, il sait comment on fait les bébés. Le mot spermatozoïde était tellement compliqué à dire, mais il le sait le dire.
C'est trop dur.
Mais
je vais garder ce truc de câlin spécial.
Ah ouais.
Pardon, mais vraiment, ça va devenir un. Non, mais.
Tu veux faire des câlins. D'accord, tu vas dire maintenant à tes meufs.
Pour ma vie sexuelle.
Mais tout à fait. Et il y avait un livre qui était super bien fait là-dessus. Non, pas. Toi, tu peux plus faire des bébés. Non. Mais en tout cas. Le câlin spécial, il sait ce que c'est, il sait comment.
Il y a un bouquin, tu disais.
Il y avait un bouquin qui était pas mal dans les montessoriens, dans la collection Balthazar, et qui explique bien et qui montre aussi vachement bien le fœtus au fur des, enfin l'embryon et le fœtus au fur et à mesure. Et tu vois, encore l'année dernière, j'ai raconté à mon fils que ça arrivait qu'il y a des petits garçons, des petites filles qui naissent pas dans le bon corps et comment ça allait se passer pour eux et qu'il fallait être encore plus gentil avec eux parce que c'était pas facile. Et pareil, deux papas, deux mamans, comment ils peuvent avoir des enfants ensemble. Et ce que je fais, alors là, je le fais un peu moins parce qu'il a très bien compris. Mais quand moi je lui lis des histoires depuis qu'il est tout bébé et je changeais pas mal le prince et la princesse, donc dans les livres, tu vois, un peu classiques. Et surtout je finis toujours par donc tu vois, c'est un papa et une maman, ou deux papas ou deux mamans, et ça a toujours été. Et c'est hyper important d'ancrer ça, parce qu'en fait plus tu l'ancres tôt, plus c'est OK. Et donc j'ai des potes en couple garçon, en fille, et je veux dire, ça n'est même pas un sujet s'ils s'embrassent devant mon fils. C'est tu vois, mais son œil ne s'arrête même pas, en fait, parce que c'est la normalité.
Bah oui, et puis en même temps, je crois aussi que c'est nous qui baisons bien la sûr. Tête des bien enfants sûr. Avec nos préjugés à la con, quoi.
Et du coup là-dessus, il est hyper il sait, enfin tu vois, c'est OK. Sans en faire un cours à chaque fois, mais et à chaque âge, je pense que voilà, il y a un discours adapté, des mots adaptés, mais ouais.
Trop bien. Si vous voulez aller venir parler à Anne-Laure,
ouais.
Vous pouvez lui envoyer un message où?
Alors,
c'est quoi le...
Il y a un formulaire. c'est une pote à moi qui a mis ça en place parce que j'avais trop de demandes. Donc en fait, il y a une sur le site ontheverge-podcast.fr, il y a une demande de participation, mais ça se retrouve aussi sur les réseaux sociaux,
ontheverge
podcast et le Facebook, et c'est très facile à trouver. Vous faites, vous remplissez ce joli petit formulaire et voilà.
N'hésitez pas à aller. Vous aurez une heure et demie, voire même parfois trois heures, ouais, voire six heures.
Ouais, ça dure longtemps.
Je sais pas comment tu fais, mais ok.
Bah en fait, c'est passionnant toi-même, tu sais.
D'écoute authentique et admirable.
Merci Fab.
Tout ça gratuitement en plus. Vous avez même pas besoin de payer un thérapeute.
Alors je dis, il y en a qui m'emmènent, qui m'offrent des chocolats.
Ah, ramener un petit truc, ramener un petit truc, ça fait plaisir. Voilà. Mais effectivement, c'est pas tous les jours qu'on se retrouve avec quelqu'un qui t'écoute comme ça pendant aussi longtemps.
Merci Fab.
De façon authentique et bah bravo. Voilà. Pour tout. Vous pouvez retrouver le bouquin d'Anne-Laure dans toutes les meilleures librairies de France et de Navarre.
Yes.
Ça s'appelle On the Verge. C'est tout jaune. Ouais. Jaune poussin.
C'est beau. Hein.
Vous pouvez y aller. Des hommes qui parlent de leur sexualité sans tabou. De Anne-Laure Parmentier avec un A.
Tout à fait.
À Parmentier. Pardon. Pas comme le Hachi. Cher Robert Laffont, il est très tard. Je suis fatigué. Et vous pouvez également, bien sûr, retrouver On the Verge sur tous vos applis de podcast préférés, Spotify, Apple Podcast. Bref, vous connaissez. Hop. Est-ce qu'il y a un truc sur lequel je t'ai pas amené dont tu aurais aimé parler, Anne-Laure?
Écoute, Fab, non, j'ai dit pas mal de trucs. Si, peut-être juste rappeler qu'on parle de sexualité, mais ce qui est assez fascinant, et c'est aussi ça, moi, que je trouve tellement enrichissant, c'est qu'on parle d'éducation, de religion, de tradition, même parfois de politique. En fait,
psychologie
évidemment.
Bien sûr.
Des choix, des non-choix, des traumas, des rencontres. Et c'est ça qui est très enrichissant, c'est qu'on parle vraiment de tellement de sujets autour de la sexualité que évidemment on parle de pratique et d'orientation, mais pas que. Et pour ça, je pense que c'est vraiment un super moment d'échange.
C'est beau ce que tu dis. Je vais demander à Antoine de le mettre directement en intro. Comme ça, bim, ça pose le truc, quoi, tu vois. Et je le fais en direct dans le podcast parce qu'après tout, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Merci Anne-Laure.
Merci Fab.
Mais allez écouter On the Verge, quoi. Qu'est-ce que vous attendez? N'oubliez pas d'écouter Histoire de mec aussi, hein, à côté, parce que bon, c'est pas pareil. Voilà. Moi, je parle moins de tub, mais parfois aussi. Allez, salut.